Chapitre 4. Le baudrier désormais sur son épaule droite et le fourreau battant sur sa hanche gauche, Callan se dirigeait vers le mur d'enceinte de la citadelle. Nietzsche marchait à ses côtés et les trois Mordecites les suivaient. Même si le bon sens leur disait qu'il n'était pas possible de ramener l'âme du seigneur Rall, les trois femmes en rouge semblaient déterminées à croire le contraire. Inquiètes, Callan espérait ne pas les entraîner dans une illusion dont le réveil serait pénible. Mais si elle ne retournait pas toutes les pierres de la vie pour retrouver Richard, elle ne pourrait plus se regarder en face, tant pis si une de ces pierres était une voyante. En principe, les gens ne revenaient pas de la mort, elle le savait. Mais elle avait connu des cas où des personnes qu'on disait perdues échappaient à la fin. Bien sûr, Richard n'avait pas fait une grave chute et il n'était pas non plus tombé dans un lac gelé comme un des amis d'enfance de l'inquisitrice. Dans son cas, il ne s'agissait pas seulement d'un rétablissement miraculeux. Cela posait où était exactement la séparation entre la vie et la mort. Il y avait le voile, bien sûr, mais n'était-elle pas bien placée pour savoir que ça ne voulait pas tout dire? Pourtant, l'inquisitrice était mal à l'aise. Toute sa vie, elle s'était consacrée à la quête de la vérité. Maintenant que Richard était mort, ne devait-elle pas accepter simplement la réalité? Malgré un violent combat intérieur, Callan n'arriva pas à trancher. Quand la mort pouvait-elle être tenue pour définitive? Et à quel moment le voile se refermait-il pour de bon? Qui pouvait dire quand il n'y avait vraiment plus d'espoir? Après tout, à cause de la souillure de Jeet qui les empoisonnait tous les deux, Callan avait emporté avec elle une étincelle de vie, le contrepoids du mal, jusque dans le royaume des morts. Alors qu'on l'avait assassinée, elle avait pu revenir à la vie grâce à cette étincelle. Sans avoir vécu cette expérience, elle aurait eu du mal à croire qu'une telle chose était possible. Ainsi, même si l'espoir était mince, elle s'y accrochait. Si ça avait fonctionné pour elle, il pouvait y avoir un moyen que ça fonctionne pour Richard, lequel elle n'aurait su le dire, surtout des heures et des heures après sa mort. Mais c'était bien pour ça qu'il fallait aller parler à la voyante, car elle seule pouvait leur indiquer une direction à suivre ou leur fournir quelques indices précieux. Assis sur une saillie rocheuse, Chasseur regarda son amie humaine franchir l'arche du modeste mur d'enceinte. Dès que ce fut fait, Callan regarda dans toutes les directions afin de s'assurer qu'il n'y aurait pas de mauvaise surprise, car les demi-humains pouvaient apparaître à tout moment. Quand son ami passa à côté de lui, Chasseur se mit à ronronner comme s'il était content de la voir. Callan, elle, se réjouissait de la présence du félin. Pour l'instant, il était l'incarnation de tous ses espoirs. Le petit animal ne ressemblait à aucune créature connue. Bien qu'il ait des similitudes avec un chat, il n'en était pas un, car il faisait trois bonnes fois la taille d'un matou moyen. Et s'il avait le même genre d'yeux et de moustaches, ses pattes étaient beaucoup plus grosses et puissantes. Quant à son corps, il évoquait plutôt celui d'un blaireau géant. Le bout de ses pattes, bien trop gros en comparaison du reste, indiquait qu'il s'agissait d'un jeune. Sur son dos, sa fourrure brune était couverte de taches noires et sa robe devenait beaucoup plus sombre au niveau de ses hanches et de ses épaules. À vrai dire, Chasseur faisait penser à un mélange entre un lynx et un glouton. Les antérieurs musclés correspondaient tout à fait, mais il manquait le long museau et les pattes courtes de ces deux animaux-là. La tête évoquait celle d'un cougar, mais en plus gros et avec un front plus saillant. Les longues oreilles pointues et leurs touffes de poils allaient également dans ce sens. Le soir de leur rencontre, Callan avait retiré une épine de la patte du félin. Depuis, Chasseur l'aimait beaucoup, et cette première nuit, il avait même dormi lové contre elle. Pourtant, il était le petit d'une créature que Rouge avait décrite comme énorme et menaçante. Alors qu'elle aurait déjà détesté devoir affronter Chasseur, Callan préférait ne pas penser à un combat contre sa mère, mais l'animal et elle étaient amis à leur façon et elle n'avait rien à craindre. En revanche, il fallait espérer que Chasseur, comme la dernière fois, était bien là pour la guider jusqu'à Rouge. Callan s'accroupit devant son ami ronronnant et croisa son regard vert. Puis elle le gratta derrière l'oreille et le caressa. Ravi, Chasseur frotta la tête contre la main de l'inquisitrice. « Rouge t'envoie me chercher, pas vrai ?» Chasseur comprenait-il. Callan aurait su le dire, mais il ronronna plus fort et tourna la tête vers la forêt, comme s'il avait saisi ce qu'elle venait de dire. Se redressant, Callan posa une main sur le pommeau de son épée et sonda les bois obscurs. Jusqu'au foyer de Rouge, la marche serait très longue, et même s'il y avait encore de la lumière, il se faisait tard et la nuit ne tarderait plus. S'aventurer dans les terres noires après le coucher du soleil n'était pas recommandé, tout le monde savait ça. Mais laisser Richard sombrer dans le néant était pire encore. Que la nuit approche ou pas, il n'y avait pas plus important. Dans le royaume des morts, le temps ne comptait pas, certes, mais il en allait autrement dans le monde des vivants. Alors que toutes sortes de menaces pesaient sur l'inquisitrice et les siens, elle n'aurait su dire combien de temps il lui restait, mais ça ne pouvait pas être beaucoup. En ce moment même, Anis Arc, Sulakan et leur horde traversaient Dara avec pour objectif la conquête du palais du peuple. Sur leur chemin, ils ranimaient des morts afin qu'ils grossissent leur rang. La moindre minute comptait. « Nous n'avons pas de temps à perdre, » dit Callan presque pour elle-même. « Chasseur, peux-tu nous conduire jusqu'à Rouge ?» Comme s'il comprenait, l'étrange animal sauta de son rocher et s'engagea dans un champ de hautes herbes, puis il s'arrêta, se retourna et s'assura que Callan le suivait. La fois précédente, il avait veillé sur elle, la protégeant activement. Sans lui, l'inquisitrice et ses compagnons n'auraient probablement pas survécu.
« Je crois qu'il sait où il va, » dit Nietzsche.
« En tout cas, c'est l'impression qu'il donne, » fit Callan en se mettant en route.
« On marche jusqu'à la tombée de la nuit, puis on campe ?»
demanda Cassia.
« Non, on continue tant que chasseur ne s'arrête pas. »
Les trois morts de site acquiescèrent.
« Ça me convient, »
dit Cassia. Dans le ciel, les ailes déployées, des vautours se laissaient porter par le vent. Volant plus bas, certains frôlaient la cime des arbres. Richard insistait souvent sur les signes qu'on voyait au début d'un voyage. Celui-là ne disait rien de bon à sa femme. Quand les cinq femmes entrèrent dans la forêt de pins, Callan essaya de sonder ses profondeurs. Même si elle ne vit rien d'inquiétant, le silence lui parut peu rassurant. Mais dans les terres noires, alors que la forêt grouillait de danger, cette quiétude était peut-être normale, un silence de mort. La pire menace, c'était les demi-humains. Si des centaines d'entre eux se cachaient au milieu des arbres, la magie de Nietzsche ne servirait pas à grand-chose. Bien sûr, les trois morts de Sith se battraient et Callan avait l'épée de vérité, mais les demi-humains attaquaient toujours en masse. Ne pas vouloir d'une escorte avait peut-être été une erreur. Mais même si les soldats étaient venus, tous des combattants d'élite, ils n'auraient pas eu l'ombre d'une chance contre les hordes de tueurs que l'empereur Sulakan et Anis Arc envoyaient d'habitude. Sur un terrain si défavorable, ces braves auraient été rapidement encerclés puis écrasés par le nombre. S'il devait y avoir un affrontement, il était perdu d'avance. Callan le savait. Pour éviter ça, les cinq femmes allaient devoir se fier à Chasseur et à sa connaissance de la forêt. Sur l'étroite piste qu'il suivait, l'animal s'arrêtait régulièrement afin d'attendre les voyageuses. Dans son élément, il ne semblait redouter aucune menace, parce qu'il se savait assez fort pour se protéger, ou assez rapide pour semer n'importe quel adversaire. Aucune des cinq femmes n'aurait pu le dire, et c'était bien le problème.